Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission du Chaudron des Découvertes. Je suis à Barthas, comme à chaque fois, en compagnie de Léo. Et aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement d'un auteur appelé Fabien Toulmé, qui produit des romans graphiques. Mais je vous parlerai aussi d'un petit roman qui fait écho à un des chapitres d'un des romans graphiques de Fabien Toulmé. Alors, qui est Fabien Toulmé? Fabien Toulmé est né en 1980. Il était ingénieur en génie civil, un métier alimentaire qui ne le passionnait pas vraiment. Il a beaucoup voyagé dans le monde, en particulier au Brésil, où il a rencontré sa femme. Et il y a aussi rencontré des auteurs de BD brésiliens qui l'ont poussé à faire de la BD. Puis, il est revenu en France avec sa famille. Et il a commencé à créer des romans graphiques, mais le soir, après son travail. Et puis finalement, il est devenu auteur de romans graphiques à plein temps. C'est un auteur prolixe qui a publié, mais je dis bien entre autres, en 2014, Ce n'est pas toi que j'attendais, en 2018, L'Odyssée d'Hakim, c'est trois volumes qui parlent de l'histoire d'un jeune réfugié ayant fui la Syrie avec son bébé. En 2022, c'est En lutte. En 2023-2024, Inoubliable. Et en 2025, Ulysse. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, mais je n'ai pas eu l'occasion de les lire. Et je parle en effet de romans graphiques et non de BD. Et pourtant, pour moi, la BD, enfin du moins celle que je préfère, ce sont celles où le dessin prédomine sur le texte et se suffit au message. Mais j'avoue, en découvrant cet auteur, j'ai apprécié la façon dont il développe le récit et le dessin. En effet, avec Fabien Toulmé, on est quasiment dans un documentaire illustré et la forme est celle des cases de BD, mais le texte a aussi son importance sans être surchargé. Et la façon dont il organise les choses rend le récit très abordable. Donc tout d'abord, le roman graphique « Ce n'est pas toi que j'attendais », donc sorti en 2014. C'est un roman autobiographique. Fabien Toulmé et sa femme attendent un deuxième enfant. Malgré les progrès en matière de prévention et de diagnostic prénatal, ils vont découvrir seulement à la naissance que leur petite fille est atteinte d'une trisomie 21. Revenus en France au cours de cette seconde grossesse, en fait, ils vont passer entre les mailles du filet et aucun examen ni médecin ne vont réaliser le diagnostic. Fabien Toulmé le dit à plusieurs reprises, avec sa compagne, il défie les statistiques. Et donc, dans ce roman graphique, Fabien Toulmé se met en scène et dévoile avec franchise et pudeur les sentiments qui l'assaillent. Il ne connaît pas ce handicap, il s'inquiète de l'avenir de son enfant et il craint le regard des autres. Et il a du mal à accepter cet enfant différente. Il a de la colère avec un fort sentiment d'injustice et il les exprime par le dessin et par ses textes. La peur, la colère, le rejet, la tristesse, la culpabilité, l'accablement. Mais lorsque l'enfant subit une opération du cœur, il comprend qu'il serait profondément malheureux qu'elle n'y survive pas. Alors son ressenti évolue. Le courage, la tendresse, et c'est un lent cheminement qui lui fera aimer sa petite fille. L'album évoque également les nombreuses démarches médicales nécessaires à la santé de sa fille. Il a mis 2 ans à faire cet album. Le dessin est assez basique et simple, mais très expressif. L'écrit et le dessin s'équilibrent et on rentre facilement dans ce récit extrêmement sensible. Second roman graphique, toujours de Fabien Toulmé, que j'ai découvert, c'est Ulysse, U-L-I-S, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Et il s'agit de classes à petit effectif qui accueillent des enfants en situation de handicap. L'expression « en situation de handicap » est à prendre au sens large. Cela peut concerner des atteintes physiques, handicap sensoriel, atteintes de maladies génétiques, ou bien handicap cognitif ou problématique psychologique, psychiatrique ou psychosociale. Certains enfants, hélas, cumulent parfois plusieurs difficultés. On parle alors de troubles associés. Fabien Toulmé a plusieurs raisons de s'intéresser à ce type de classe. D'abord parce que sa femme travaille comme AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, justement dans une Ulysse. Je ne sais pas si sa fille est en Ulysse, mais en 2025, Fabien Toulmé, le handicap, il connaît. Et par ailleurs, il s'est émergé pendant une longue période dans une telle classe. Pour ce roman graphique, il utilise cependant la fiction, mais ses sources sont bien réalistes. C'est l'histoire d'un informaticien, Yvan, en burn-out, qui se fait embaucher comme AESH. Et justement, dans une classe Ulysse. Confronté à la réalité de l'inclusion, Yvan découvre peu à peu les enfants et notamment Mathis, un élève autiste pas forcément facile à comprendre. Les personnages, l'institutrice omniprésente, les élèves apparaissent vivants et réalistes malgré le côté un peu simplifié du dessin. Ce sont des portraits sensibles, sans caricature. Et il y a Yvan. Yvan, mal à l'aise, qui cherche sa place, empêtré dans des relations dont il n'a pas vraiment les codes. Et au fond, comme ces enfants qui cherchent également leur place, ces enfants dont le vécu scolaire n'est pas simple. Ils sont à la fois dans le système et à la fois exclus face au regard des autres enfants ou même parfois des autres enseignants du système classique. Fabien Toulmé met en exergue les difficultés de l'inclusion, les failles et les contraintes du système. Alors évidemment, en ce qui me concerne, ce roman graphique m'a particulièrement accroché, tout simplement parce que j'ai moi-même côtoyé ce type de classe lorsque je travaillais. Et effectivement, j'ai pu observer la problématique de l'inclusion et vu des enseignants se démener. Mais j'ai vu aussi des situations très compliquées à gérer pour les enseignants. Juste deux petits exemples. Une enfant autiste profonde qui hurlait des heures, dont la souffrance prégnante l'empêchait de se calmer. Difficile à gérer pour un enseignant. Ou bien l'inquiétude des adultes et des professionnels face à un enfant atteint d'une maladie génétique qui risquait de faire des fausses routes. En effet, la vie dans ces Ulysses n'est pas toujours simple, mais elle offre aussi de beaux moments. Et pour finir, c'est le même dessin, simple sans être simpliste, expressif, sans surcharge. Comme dans ses précédents albums, le message passe, et ce, avec sensibilité et émotion.
What you do to me, baby?
Alors, je continue avec le troisième roman graphique, toujours de Fabien Toulmé, intitulé « En lutte ». C'est trois voyages, trois enquêtes où les femmes prennent leur place et défendent soit leur terre, leurs droits, soit leur liberté. Fabien Toulmé nous embarque dans des rencontres riches où les femmes font preuve de beaucoup d'énergie. Alors, premier voyage, le Liban. Ça date de 2019. Il y a ce qu'ils appellent la Tawa, c'est-à-dire la révolution au Liban, qui est partie d'une taxe que le gouvernement voulait imposer sur WhatsApp. Mais en fait, ça, c'est l'étincelle. En réalité, c'est aussi le manque d'électricité, d'éducation et de santé qui ont motivé ce soulèvement. Fabien Toulmé rencontre une activiste féministe, Nidal, qui lui décrit sa vie de militante et les difficultés auxquelles elle est confrontée. Elle est féministe, mais précise que son combat est un combat plus large que la seule place des femmes. Et hélas, ce pays n'a jamais fini d'en baver. Hein. On avait la guerre civile qui n'en finissait pas non plus. Récemment, donc, cette révolution qui malheureusement, et on le voit dans le roman, qui s'essouffle, le Covid, l'explosion du port de Beyrouth et aujourd'hui la guerre. Donc, ouais, encore une belle rencontre et un documentaire, en fait. Alors, en 2021, Fabien Toulmé part au Bénin. Et là, il y rencontre Chanceline, autre activiste féministe. Elle a créé une académie, l'Académie de leadership pour les jeunes filles. En fait, son but, c'est sensibiliser les femmes à leurs droits. Et entre autres, elle informe les adolescentes sur le risque de grossesse précoce. Ces grossesses précoces qui sont parfois le résultat de leur inconscience, parfois aussi issues d'un viol. Et ces grossesses les stigmatisent et les privent de continuer à faire des études. Et elle interpelle également les garçons, car c'est aussi une lutte contre les préjugés et une culture patriarcale. Une belle rencontre. Et troisième voyage, toujours hein, dans le même roman. En 2020, il part au Brésil, le pays de sa femme, et là, il s'intéresse à la communauté du Porto do Capim. Ce sont à nouveau les femmes qui prennent en main la lutte. Elles veulent sauvegarder ce lieu de vie communautaire mis en danger par un projet de parc écologique, entre guillemets, bien sûr, qui les expulserait loin de la ville et les priverait de tout ce qui s'est construit en termes de relations humaines, de culture et de projets. Fabien donc s'informe, enrichit ses projets d'écriture. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à la fin de chacun de ses récits de voyage, il place ce qu'il appelle des intermèdes en interrogeant un sociologue, Olivier Filleul, qui éclaire les interrogations de l'auteur sur ses luttes et les raisons de s'y engager. Alors, je n'ai pas suivi la chronologie de ses voyages, et si j'ai fini par sa visite au Brésil, c'est parce que cela fait écho à un petit roman dont je vais vous parler.
Eclipsed in a million ways. make of trains. The soul is bent, feels the weight of truth falling through. Left behind, no choice but to run.
Dont je vais vous parler, c'est Casablanca Circus de Yasmine Chami. Yasmine Chami est anthropologue et enseignante et vit à Casablanca. Casablanca Circus est son cinquième roman. C'est l'histoire d'un couple de jeunes Marocains qui ont fait des études à Paris et y ont vécu plusieurs années. Et ils décident de revenir au Maroc pour y travailler et s'y installer. Mère d'un petit garçon, la jeune femme est à nouveau enceinte d'une petite fille. Le roman s'articule autour du récit de la nouvelle vie de ce couple auprès de leur famille et de chapitres où la femme s'adresse à cette petite fille qu'elle attend. Mais ce qui fait écho au roman graphique de Fabien Toulmé, c'est l'histoire d'un projet, notamment tenu par le mari, dont les conséquences seraient le relogement des habitants d'un bidonville situé au bord de la mer, pour un quartier éloigné. Mais ce qui fait écho au roman graphique de Fabien Toulmé, c'est l'histoire d'un projet notamment tenu par le mari, dont les conséquences seraient le relogement des habitants d'un bidonville situé au bord de la mer, pour un quartier éloigné. Comme dans l'histoire de Porto do Capim, ces hommes et ces femmes perdraient leur mode de vie, leur communauté, leur travail, notamment les pêcheurs. C'est un roman très fin qui soulève beaucoup de questions et de problématiques. Le poids de la famille, la différence de classe, les relations de couple, les choix de vie. Je vais juste vous faire deux petits extraits. Le premier, c'est en fait quand cette femme parle à sa petite fille qu'elle attend. Quand j'ai tenté d'expliquer à Yamna que ton ADN te contient déjà tout entière, elle a roulé des yeux bruns et haussé les épaules avec ostentation devant ses faux savoirs. C'est ce qu'on t'apprend là-bas, mais demande à ta mère à qui elle a pensé avec force quand tu habitais son ventre, et elle te dira que les pensées d'une mère contribuent à modeler son enfant. J'ai raconté le soir même en riant cette conversation à Chérif. Il m'a caressé les cheveux. C'est une croyance largement partagée. Si tu t'obstines à convoquer exclusivement la rationalité, tu vas t'épuiser, perdre le fil, couper tant de liens. Tu ne transformeras pas Yamna. Et au fond, pourquoi pas ? Peut-être existe-t-il un lien inexploré entre nos désirs profonds et la forme empruntée par la réalité. Imaginer son enfant avec force pourrait ainsi faire advenir ce que l'on espère. Comme si nous détenions une sorte de clé inconnue ou connue autrement qui restaurait la puissance du désir humain et les métamorphoses qu'il engage. Shérif et moi avons longuement parlé dans l'obscurité descendue sur la terrasse où les grands cyprès du jardin jetaient des ombres denses. Tard dans la nuit, nous avons regardé ensemble le ciel violet sur lequel se détachaient les masses plus claires des rares nuages flottant dans un fourmillement d'étoiles. Ce que nous allions retrouver, mis de côté durant ces années de formation et de vie en France, ce que nous allions découvrir aussi, dont nous n'avions pas conscience enfant, moi beaucoup moins que Shérif sans doute, libre d'aller et venir dans la ville qui d'une certaine manière lui appartenait. Et je distingue déjà dans les prémices de ce retour une sorte de supériorité chez lui, une reconnaissance intime des milliers de codes de pensées inconscientes qui tissent la toile complexe des liens entre Casablancais, une familiarité organique avec la ville, ses habitants, dont je suis démunie et je sais que je vais payer d'une manière ou d'une autre pour cette adolescence recluse qui m'a coupée de ce que je pressens aujourd'hui, une nouvelle hiérarchie des rapports, le poids respectif de nos familles, les révoltes adolescentes abandonnées en partant, mais que peut-être nous allons retrouver à peine transformées dans ce retour. J'expérimente déjà une crispation quand ma mère intervient très naturellement. « Tes tantes vont prendre le thé aujourd'hui. Ne sors pas. » Ou « Oh, je préfère ta robe blanche. Lila n'a pas assez mangé ce midi. Mais ne le laisse pas sortir à cette heure-ci dans le jardin, il fait trop chaud. Shérif ne dîne pas avec nous ce soir ?» Remarques innocentes en apparence, mais qui témoigne d'une autorité active et au-delà d'un rapport au monde que je ne supporte qu'avec peine. Le monde de ma mère, de mes tantes, de mes cousines, ce monde de femmes qui connaissent leur place et leur pouvoir, organisent leur vigilante solidarité. Donc voilà, on voit bien que le retour au Maroc n'est pas si évident que ça pour cette femme. Et deuxième petit extrait, là elle parle avec son beau-frère. J'ai fait des rencontres uniques dans cette ville. Je vais y mettre au monde ma fille. J'y suis née. C'est dire si j'y suis liée. J'aime sa beauté et l'éprouvante laideur de ses faubourgs me révolte. La prédation qui y règne aussi. Le cynisme dont on veut nous faire croire qu'il est la forme ultime du pragmatisme moderne. Ce que j'ai cru en revenant y vivre, c'est que Shérif et moi, ensemble, nous pouvions inventer une manière d'y exister autrement. Ça a sans doute été ma naïveté. Nessim n'est que le visage dans lequel s'est incarné face à nous la voracité de Casablanca, sa violence, sa perversion, comme tu dis. Ce qu'elle impose à ceux qui, mus par une ambition légitime, doivent accepter la corruption de leurs intentions, de leurs actes, pour avancer, et l'écrasement que les aménagements de ces espaces inscrivent jusque dans sa géographie. La ogra des plus démunis, dont on se débarrasse comme de débris encombrants. Alors, juste une petite parenthèse, je ne savais pas ce qui signifiait le mot « ogra », et donc je suis allée chercher ces sentiments d'humiliation, d'injustice et d'oppression face à des abus de pouvoir et un mépris institutionnalisé contre certaines catégories de population. Et donc je continue le texte et ce que dit May. Regarde les aménagements du bord de mer, l'enrichissement fulgurant des promoteurs, les passe-droits pour les marchés publics, les attributions opaques dont bénéficient toujours les mêmes, masquées derrière des sociétés écrans. Je suis écœurée à la seule pensée de souscrire de près ou de loin à cette prédation. Donc un très très beau roman, très très bien écrit et voilà, très évocateur. Alors pour finir, juste un petit bonus. Rappelez-vous, la dernière émission du Chaudron des Découvertes, nous n'avions pas eu le témoignage de Raphaël sur les radios associatives. Il est donc temps de lui laisser la parole.
Merci beaucoup Jacqueline. Alors j'ai pas encore complètement retrouvé ma voix, mais voilà, j'ai préparé quelque chose à dire sur ce sujet. Et c'est marrant parce que j'ai réalisé il y a quelques jours, vraiment, hein, que ça faisait exactement 10 ans tout pile que j'étais tombée dans la radio. Alors moi j'écoutais la radio depuis toujours, mes parents ils écoutaient beaucoup, donc j'ai grandi avec. Il y avait toujours une radio allumée dans la cuisine quand j'étais enfant. C'était, pour ne pas les nommer, les grandes radios du service public que mes parents écoutaient, donc France Inter, Culture, Info, Musique. Et moi, j'adorais aussi écouter la radio. Ça venait de loin, ça semblait inatteignable, inaccessible, un monde un peu magique, impénétrable. Et jamais j'aurais pensé, moi, pouvoir un jour faire partie de cet univers radiophonique quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente. Et puis un jour, il y a donc 10 ans, en mars 2016, j'étais loin d'être adolescente, j'étais jeune adulte, j'habitais à Bruxelles à l'époque et j'étais allée assister à une rencontre, à une conférence sur l'usage du son en documentaire, puisque je m'intéressais au cinéma documentaire. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois de ma vie un enregistreur. C'était un Zoom, c'était le modèle H4N pour ceux qui voient, donc le gros un peu rustique avec ses deux micros stéréo, et j'ai appris que c'était avec ce genre d'objet qu'on enregistrait les choses qui ensuite sortaient de la radio que j'écoutais tous les jours. J'ai été assez fascinée par cet appareil et j'ai cherché à apprendre à l'utiliser. Alors je me suis inscrite à un atelier radio proposé par une association de Bruxelles qui s'appelle le XARA. C'est une asso qui mène des projets autour de l'audiovisuel, entre autres, et notamment radio, avec les enfants, les habitants. Et ils avaient notamment une émission de radio qui s'appelait Radio Maritime, du nom d'un quartier de Molenbeek à Bruxelles. Et donc, j'ai fait cet atelier avec eux et en une journée, au sein d'un petit groupe de 15 personnes, on était accompagnés par 3 intervenants, j'ai appris à quel point la radio n'était pas ce média intouchable, fabriqué magiquement quelque part d'inaccessible. J'ai appris que tout le monde pouvait en faire, que c'était vraiment facile d'apprendre, facile de transmettre, facile de produire, vraiment pas si difficile d'émettre. J'ai appris qu'on pouvait toucher plein de gens, autant ceux qui tendent les micros que ceux qui parlent dedans, et que même si on avait une ampleur de diffusion toute petite, parce qu'on est une toute petite radio associative, et ben il y avait quand même des choses très fortes qui se passaient, et que la radio finalement, et ben ce qui compte, c'est pas le nombre d'auditeurs ou le nombre de journalistes qu'il y a dans une rédaction, mais c'est la proximité, l'écoute et les liens que ça crée. Voilà, c'est un peu niais, mais franchement c'est vrai, en tout cas c'est ce que je pense. Et suite à ça, j'ai jamais vraiment arrêté de faire de la radio après cet atelier. Donc j'ai acheté un Zoom, j'ai commencé à faire des choses toute seule, à enregistrer des choses, à faire des documentaires radio. Ensuite, avec des amis, on a fondé notre propre web radio associative qui existe encore, qui s'appelle Radio Monobloc. C'est un projet dont je suis très très fière et que j'aime beaucoup. Vous pouvez d'ailleurs aller voir si ça vous intéresse sur notre site internet www.monobloc.zone. Et là, on a vraiment appris collectivement aussi à faire de la radio. On était 8 au départ, il y en avait 2 qui travaillaient dans la radio, une à Radio Nova et une à France Culture. Et les autres, on n'avait jamais vraiment touché à la radio, ou alors à peine comme moi. Et on s'est tous transmis, on a tous appris ensemble à faire du montage, à se donner des conseils. Et on a commencé à fabriquer nos émissions tout seul. Et voilà, et après, on a nous-mêmes donné des ateliers radio avec cette web radio associative et on a transmis à plein d'autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment un médium qui est parfait pour se l'approprier soi-même et le transmettre. Et vive la radio, vive la radio associative.
Merci Raphaël pour ce beau témoignage et puis fin de l'émission et à une prochaine fois.
Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.